Un journal présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Lutter contre l'islamisme radical sans nommer l'adversaire, c'est l'ambition du projet de loi présenté ce matin par le gouvernement. Le texte se propose officiellement de conforter les principes républicains. L'heure des plaidoiries de la défense dans le procès de Nicolas Sarkozy. L'avocate de l'ancien président, maître Jacqueline Lafont, a tenté de tailler en pièces l'argumentaire du parquet national financier qui avait requis hier de la prison ferme. Regain de tension en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes kanak multiplient les barrages routiers pour dénoncer la vente d'une usine de nickel qu'ils souhaiteraient contrôler. En toile de fond, le prochain référendum d'autodétermination prévu d'ici 2022. 80 millions de réfugiés de déplacés dans le monde au début de l'été, un record inquiétant dénoncé par l'ONU, les Nations Unies qui appellent la communauté internationale à arrêter les guerres. Enfin, les négociations sur le budget européen peut-être en passe d'aboutir. La Pologne et la Hongrie pourraient lever leur veto grâce aux efforts de la présidence allemande. Le gouvernement a donc présenté ce matin son projet de loi contre l'idéologie pernicieuse de l'islamisme radical, pour reprendre les mots de Jean Castex, mais c'est tout le paradoxe du texte. Il ne reprend pas ces termes d'islamisme radical. Officiellement, le projet vise donc à conforter les principes républicains dans la loi. Il n'est plus question non plus de séparatisme. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Le Premier ministre avait mobilisé ce matin plusieurs membres de son gouvernement pour présenter le texte.
Jean Castex précise ce qui n'est pas explicite dans le titre. Ce projet de loi vise d'abord et avant tout l'islamisme radical.
Cette idéologie a pour objectif de diviser les uns et les autres et de répandre dans la société la haine et la violence. Elle est d'autant plus dangereuse qu'elle est la manifestation d'un projet conscient, théorisé, politico-religieux qui a pour ambition de faire prévaloir les normes religieuses sur la loi commune.
Face à cette menace, la République doit se défendre et ce texte est censé lui en donner les moyens. Avec une véritable boîte à outils très divers de lutte contre ce séparatisme, parmi les mesures phares, le délit de haine en ligne, ou plutôt, selon le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui. Il a été ajouté après l'assassinat de Samuel Paty.
Nous avons regardé dans les éléments factuels que nous avions ce qui manquait au dispositif. Vous savez que c'est parti d'une vidéo, puis des propos haineux qui sont devenus des propos mortifères et qui ont conduit à la mort de cet homme. Nous avons donc créé un délit de mise en danger de la vie d'autrui par divulgation d'informations relatives à sa vie privée.
Ce nouveau délit punira le fait de révéler des informations privées sur une personne permettant de l'identifier ou de la localiser dans le but de l'exposer à un risque d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou psychique. Un article qui ressemble au fameux article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale. Il devait d'ailleurs porter le numéro 25, mais pour éviter toute confusion, le gouvernement lui a donné un nouveau numéro, le 18.
Antoine Marette, merci. Ce projet de loi sur les principes républicains fait-il avancer le droit des femmes? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat juste après ce journal. Après le réquisitoire du parquet national financier, place à la défense dans le procès de Nicolas Sarkozy. Jacqueline Lafont, l'avocate de l'ancien président, est la première à plaider. Rappelons qu'hier, le PNF avait requis la même peine contre les trois prévenus. Nicolas Sarkozy, l'avocat Thierry Herzog et l'ex-haut-magistrat Gilbert Azibert, 4 ans de prison, dont 2 fermes. Selon le ministère public, Nicolas Sarkozy a bien obtenu, via Thierry Herzog, des informations couvertes par le secret auprès du magistrat Gilbert Azibert au sujet d'une procédure en cassation dans l'affaire Bettencourt. En échange de quoi, Gilbert Azibert aurait eu la promesse d'un poste à Monaco. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Vous suivez le procès de Nicolas Sarkozy pour France Culture et son avocate maître Lafont s'emploie à démonter l'argumentaire du PNF.
Hier, nous avons eu droit à des slides et des nuages de mots, mais jamais une diapositive ne remplacera une preuve. Pendant 2h30, Jacqueline Lafont, de sa voix élégante, a plaidé la relaxe pour Nicolas Sarkozy, assis devant elle et coincé dans cette affaire construite de toutes pièces par l'accusation, selon elle. La ligne bismuth, ce n'était pas la première fois qu'un tel procédé était utilisé par Thierry Herzog, procédé qu'elle compare aux messageries cryptées d'aujourd'hui. Est-ce que tous les utilisateurs des WhatsApp ou Telegram sont des délinquants chevronnés années, ironise-t-elle en rebondissant sur cette expression du PNF pour décrire les méthodes des trois prévenus. Puis elle rappelle qu'à l'occasion des perquisitions, aucun document confidentiel n'a été retrouvé chez les trois hommes, si ce n'est l'arrêt de la chambre d'instruction de Bordeaux, sur lequel Gilbert Azibert et Thierry Herzog se sont déjà longuement expliqués. Les soupçons de trafic d'influence, parmi les 12 membres de la chambre criminelle de la Cour de cassation, pas un n'a lâché avoir été approché par le haut magistrat Gilbert Azibert, poursuit-elle. Quant au volet monégasque, marqué par le départ précipité le 25 février 2014 de Thierry Herzog à Monaco pour dire à l'ex-chef de l'État qu'ils étaient sur écoute, je vous rappelle que c'est la théorie de l'accusation qui expliquerait pourquoi le pacte de corruption n'a pas abouti et qui a aussi déclenché l'enquête préliminaire parallèle cachée à la Défense jusqu'à l'année dernière, sans que la TOP qui informait Nicolas Sarkozy et son avocat n'ait été trouvée. Et bien Jacqueline Lafont explique que ce séjour à Monaco était prévu bien avant l'évocation d'un poste au profit de Gilbert Azibert. Nicolas Sarkozy était en cure avec sa femme Carla Bruni, présente d'ailleurs pour la première fois ce soir dans la salle. Thierry Herzog serait descendu donc pour dire à l'ex-couple présidentiel que les enregistrements de Patrick Buisson, un ex-conseiller du président, allaient sortir dans la presse des enregistrements qui concernaient entre autres la vie privée de l'ex-première dame.
Merci Anne Fauquemberg avec les moyens techniques et d'Alexandra Bergel depuis le nouveau palais de justice de Paris. En Nouvelle-Calédonie, la tension monte autour de la filière nickel, principale ressource minière de l'archipel français du Pacifique. Le groupe brésilien Vale a annoncé ce matin la vente de son usine de nickel à un consortium calédonien et international. Parmi les acheteurs, il y a le négociant en matière première Trafigura. Cette vente, les indépendantistes et les autorités coutumières kanak n'en veulent pas. Pour se faire entendre, il multiplie les barrages et les blocages, situation explosive qui a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. Stéphane Robert, ce regain de tension s'inscrit dans un climat politique particulier. D'ici 2022, la Nouvelle-Calédonie doit à nouveau voter pour ou contre son indépendance.
La situation en Nouvelle-Calédonie est particulièrement tendue depuis quelques jours, raison pour laquelle le député UDI Jean-Christophe Lagarde a hier interpellé le Premier ministre à l'Assemblée au nom des députés calédoniens qui l'avaient mandaté.
Des milliers de Calédoniens ne peuvent plus circuler librement. Le conflit s'est étendu à de nombreux sites miniers et Nouméa a été ces derniers jours le théâtre de véritables scènes de guérilla urbaine. La Nouvelle-Calédonie est au bord d'un chaos politique, économique et social.
Le sénateur du Doubs, Jean-François Longeau, a lui aussi posé une question au gouvernement cet après-midi au Palais du Luxembourg.
Monsieur le ministre des Outre-mer, mes chers collègues, c'est la première fois depuis 30 ans que les Calédoniens affrontent de manière aussi violente sur le terrain avec des barrages sur lesquels certains participants sont armés. Le risque, monsieur le ministre, c'est de répéter les événements des années 80.
Au Sénat, tout à l'heure, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a quelque peu éludé la question.
En deux minutes, la Nouvelle-Calédonie est évidemment une question qui est pratiquement impossible de répondre, donc je me tiens à disposition du Sénat.
À l'origine de cette brutale montée des tensions sur place, il y a la vente de l'usine de nickel du Sud, propriétaire du groupe brésilien Vale. Il y avait jusqu'ici deux offres de reprise. Or, il y a deux jours, le repreneur coréen, associé aux Kanaks indépendantistes, s'est retiré. Et du coup, le Brésilien Vale a confirmé la vente de l'usine au consortium international mené par le Suisse Trafigura. Ce que refusent les leaders indépendantistes et les autorités kanaks qui demandent à l'État français d'intervenir. La question du nickel est cruciale en Nouvelle-Calédonie. C'est la principale ressource de l'île. Elle est intimement liée aux enjeux politiques. Les indépendantistes y voient la condition du financement du futur État calédonien, un État qu'ils espèrent constituer avec la perspective d'un troisième référendum d'ici 2022. Le 4 octobre dernier, le oui à l'indépendance avait obtenu un score inédit de 47%. Et donc on en est là, avec des barrages et des contre-barrages aux abords des sites miniers. Les hommes sur ces barrages sont armés. L'État français dispose sur place de seulement 5 escadrons de gendarmerie, soit un peu plus de 500 personnes. Plusieurs d'entre eux ont d'ores et déjà été blessés.
Stéphane Robert, merci. C'est un record préoccupant. Le nombre de réfugiés et de déplacés dans le monde a franchi la barre des 80 millions en juillet et la pandémie de Covid-19 va sans doute encore gonfler ce chiffre. Le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés appelle la communauté internationale à se ressaisir pour éviter que la situation n'empire. Les dirigeants du monde doivent arrêter les guerres, affirme Filippo Grandi. Les explications de Christian Chesneau.
C'est un triste record qui s'ajoute au malheur du monde plongé en pleine pandémie de Covid. Le nombre de réfugiés et de déplacés n'a cessé d'augmenter en 2020. La barre des 80 millions vient d'être franchie. Les déplacements forcés ont doublé durant la dernière décennie. Les anciens conflits n'ont pas été réglés et de nouveaux apparaissent, s'inquiète le HCR, alors que la communauté internationale mobilise ses ressources pour enrayer la crise sanitaire. La violence en Syrie, en République démocratique du Congo, au Mozambique, en Somalie et au Yémen a provoqué de nouveaux déplacements au cours du premier semestre de l'année. Le rapport du HCR souligne également que certaines des mesures prises pour freiner la propagation du Covid-19 ont rendu plus difficile l'accès des réfugiés à la sécurité, notamment à cause de la fermeture des frontières. Résultat, les nouvelles demandes d'asile ont diminué d'un tiers par rapport à 2019. Enfin, de nouvelles guerres ont chassé de chez elles des milliers de personnes, qu'il s'agisse du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Karabakh ou encore de la campagne militaire de l'Éthiopie contre le Tigré. Au moins 50 000 habitants de cette région du nord du pays ont fui les combats pour se réfugier au Soudan voisin. Une situation désormais hors de contrôle, selon Michel Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU.
Christian Chesneau, merci. On va s'intéresser ce soir à un aspect oublié de la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie en mars, les travailleurs de la mer, qui acheminent 90% des marchandises via les routes maritimes, sont dans une situation critique. Fermeture des frontières, confinement d'hiver, mesures de quarantaine, tout cela empêche la relève des équipages. Et certains marins sont retenus en mer, forcés de poursuivre leur travail depuis 17 mois pour certains. Dans une résolution adoptée hier, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, demande à ses pays membres de remédier à cette situation au plus vite, Marie Viennot.
C'est une inquiétude qui grandit avec le temps, mais elle n'est pas nouvelle. Au mois d'avril, l'Organisation maritime internationale alertait déjà sur la situation des marins qui travaillent sur les tankers, vraquiers ou porte-conteneurs. Avec la pandémie de Covid, les relèves d'équipage sont devenues un casse-tête. Certains ports empêchent les marins de descendre à terre et quand ils le peuvent, ils n'ont pas l'assurance de pouvoir rentrer chez eux, soit parce que les frontières sont fermées, qu'il n'y a plus de liaison par vol ou que les mesures de confinement entravent les déplacements. Résultat, ceux qui veulent embarquer pour travailler ne le peuvent plus et ceux qui sont à bord voient leur période de service prolongée sans cesse. Alors que le droit maritime prévoit un maximum de 12 mois de travail consécutif pour les marins, certains comptabilisent aujourd'hui plus de 17 mois de travail sans congé et parfois aussi sans soins médicaux, s'alarme l'Organisation internationale du travail. Des centaines de milliers de personnes doivent être rapatriées sans délai, poursuit l'organisation qui exhorte ses États membres à désigner les gens de mer comme travailleurs essentiels pour qu'ils puissent circuler, prendre leur congé à terre, embarquer ou débarquer sans entrave et être vaccinés en priorité. La fatigue accumulée par les marins fait peser un risque pour leur santé physique et mentale, mais aussi pour la sécurité et la protection du milieu marin, insiste l'Organisation internationale du travail. L'ONU s'en est aussi inquiétée il y a 8 jours lors de son Assemblée générale, mais pour le moment, ni les suicides en mer, ni la probabilité grandissante d'un accident ou d'une marée noire n'ont su faire évoluer la situation.
Marie Viennot, merci. Alors que la France présentait son projet de loi contre l'islamisme radical, l'Union européenne dévoile un arsenal de mesures pour renforcer la lutte antiterroriste. Bruxelles veut notamment donner de nouveaux moyens à Europol, l'agence européenne de coopération policière. L'UE évoque la persistance de la menace djihadiste, qu'elle vienne d'Al-Qaïda ou bien de l'État islamique. Les précisions d'Angélique Bouin.
La Commission rappelle quelques grands principes, mais propose aussi des solutions très concrètes. Un partage des bonnes pratiques, par exemple, entre villes européennes qui s'accompagneraient d'aides financières. Margaritis Kinas, le commissaire en charge de la promotion du mode de vie européen.
Il y a des exemples très appropriés pour cela, comme la ville de Nice, par exemple, qui offre un modèle pertinent avec des palmiers qui sont à la fois une décoration, mais aussi une mesure de sécurité. Et nous sommes prêts à mobiliser de financements communautaires pour appuyer des mesures analogues.
Comme la sécurisation des lieux de culte avec, par exemple, des boutons d'alarme. Bruxelles propose aussi de renforcer les pouvoirs d'Europol. En une journée, en juillet, l'Agence européenne de coordination policière a retiré plus de 2000 contenus terroristes en ligne, a expliqué la commissaire en charge des affaires intérieures, Ylva Johansson. Elle espère bien voir aboutir avant Noël la négociation en cours sur le retrait en une heure de ces contenus. La commission qui a aussi rappelé à l'ordre les États membres, 25 sur 27 n'ont toujours pas transposer dans leur législation des mesures déjà votées pour lutter contre le trafic d'armes ou le financement des réseaux terroristes. Arrêtons de perdre du temps, s'est indignée Margaritis Kinas.
Angélique Bouin, correspondante à Bruxelles. L'actualité européenne, c'est aussi ce sommet des dirigeants européens prévu demain et après-demain. Le budget 2021 de l'UE sera l'un des enjeux de la rencontre. Officiellement, la Hongrie et la Pologne bloquent ce budget car Budapest et Varsovie refusent que les aides financières européennes soient subordonnées au respect de l'état de droit dans leur pays. Mais les choses sont peut-être en train de bouger grâce aux efforts de la présidence allemande. Ludovic Piétenu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas et bonsoir à tous.
En direct de Berlin, Ludovic, que l'Allemagne serait en passe d'obtenir un accord des Hongrois et des Polonais sur ce budget.
C'est l'expérience qui s'exprime ici alors que la chancelière termine son semestre à la tête du Conseil européen qui marque aussi son dernier tour de piste avant de quitter l'arène dans quelques mois. Angela Merkel a 15 ans de sommet européen à son actif et des dizaines et dizaines de discussions et de négociations à Bruxelles pour trouver, vous savez, ces compromis de dernière minute ou de la dernière chance. La chancelière allemande a aussi une proximité, des relations privilégiées avec les deux États en question, le voisin polonais et la Hongrie. Elle a grandi dans l'ancien bloc de l'Est et depuis qu'elle est chancelière, elle a toujours au sein de l'Europe servi de pont entre les États membres à l'Ouest et ceux d'Europe centrale. Ce n'est pas pour rien si on parle du triangle Varsovie-Berlin-Budapest. Avec l'espoir ce soir d'un accord auquel la France est favorable, a-t-on appris il y a quelques minutes à peine auprès de l'Élysée. Il reste à convaincre tous les autres partenaires et surtout les Pays-Bas. Chacun examine donc le compromis suivant. Pas une virgule ne serait changée au texte qui crée ce mécanisme destiné à faire respecter l'État de droit. Il n'est pas question de froisser les députés européens, mais il est ajouté une déclaration juridiquement non contraignante, mais politiquement significative, explique ce soir des diplomates, qui dit qu'avant d'envisager toute sanction, il sera fait appel à la Cour de justice européenne pour vérifier la légalité de ce mécanisme. Ce qui prendrait forcément du temps, en passant par la case justice, un an et demi ou deux, suffisamment pour que Varsovie et Budapest sauvent la face vis-à-vis de leurs opinions publiques, suffisamment par exemple pour que Viktor Orban en Hongrie mène tranquillement sa campagne des législatives au printemps 2022.
Ludovic Piétenu, correspondant en Allemagne. Merci. Dans le feuilleton du Brexit, le Premier ministre britannique Boris Johnson est à Bruxelles ce soir pour dîner avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Un dîner de la dernière chance pour parvenir à un accord commercial avant la sortie définitive du Royaume-Uni de l'UE le 31 décembre prochain. Aux États-Unis, Joe Biden accélère la formation de son futur gouvernement à une quarantaine de jours maintenant de son investiture le 20 janvier. Le président élu vient de nommer un ancien général, Lloyd Austin, à la tête du Pentagone. Si le Congrès américain confirme cette nomination, Lloyd Austin deviendra le premier afro-américain secrétaire à la défense. Et si l'on regarde les choix de Joe Biden pour former son équipe, Anthony Blinken à la diplomatie ou bien Janet Yellen au trésor, un constat s'impose. Tous ont travaillé avec Barack Obama. Grégory Phillips, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de Washington, Grégory, ce vivier Obama dans lequel puise Biden, on le trouve aussi dans un influent cabinet de conseil en stratégie, d'où sont issus plusieurs membres du futur gouvernement.
Oui, c'est vrai. Et cette compagnie s'appelle WestExec Advisor, fondée notamment par Anthony Blinken, le futur secrétaire d'État. C'est un cabinet de conseil dont le siège est situé au cœur de la capitale fédérale, tout près de la Maison Blanche. C'est là d'ailleurs que Tony Blinken nous avait reçu il y a quelques mois pour parler de la candidature de Joe Biden. WestExec a été créé en 2017 par d'anciens responsables de l'administration Obama. Et on sait que la société offrait ses services de conseil en stratégie à des entreprises du secteur de la défense, notamment par exemple la société Shield Hall qui fabrique des drones. On sait aussi que plusieurs membres de la future administration ont travaillé chez WestExec depuis 2017. Blinken donc, mais aussi la future directrice du renseignement, Avril Haines, la future porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, et le futur secrétaire à la défense dont vous parliez, Lloyd Austin, a été conseiller et actionnaire de l'entreprise. Alors en vérité, tout ça n'est pas très surprenant. Ça confirme une réalité, c'est que les membres d'une administration sortante se recycle souvent dans le privé et les cabinets de conseil. Ça confirme aussi que Joe Biden est en train peu à peu de former un gouvernement Obama 2 avec beaucoup de gens qui ont travaillé pour le 44e président américain. À cette liste, on peut ajouter les noms de John Kerry, qui sera le monsieur climat de l'administration Biden, ou encore Jake Sullivan, le futur conseiller à la sécurité nationale. Pour s'entourer, Joe Biden, l'ex-vice-président, le président élu, est allé chercher des personnalités avec lesquelles il a déjà travaillé.
Grégory Phillips, correspondant aux États-Unis. On termine ce journal avec la météo. Demain, le temps se dégrade par l'ouest. Il pleuvra du sud-ouest à la Bretagne et il neigera sur la plupart des reliefs, parfois à basse altitude. D'ailleurs, le ciel sera plus calme. Les températures minimales restent bien froides pour la saison. Elles iront de moins 3 à 7 degrés selon les régions. L'après-midi, il fera entre 2 et 15 degrés du nord-est aux côtes atlantiques. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.